C'est en lisant qu'on devient liseron. La Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche vous invite, petits et grands, à ouvrir vos oreilles pour écouter des histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Une émission réalisée conjointement par les radios ardéchoises, Radio des Boutières, Radio d'ici, Déclic Radio et Fréquence 7.
Chat de soleil et chat de pluie. J'ai deux chats. Tous les deux sont gris. Si gris qu'on les confond sans cesse. Mais l'un griffe et l'autre caresse. Chat de soleil et chat de pluie. Chat de soleil au ciel bondit, grippant au vol tout ce qui passe. Chat de soleil chasse de race, aussitôt vu, aussitôt pris. Le chat de pluie, lui, se replie, tel un vieux parapluie qui grince, dégoûté des gouttes qui rincent la campagne couleur de suie. Chat de soleil court les souris, les taupes qui s'embrouillent se glissent, creusant de leurs petits doigts lisses des galeries dans les radis. Chat de pluie vit au ralenti, sur un tapis loin des brumasses, des brouillasses et des bouillasses, effaçant l'ancien monde ami. Quand verrai-je enfin réuni par la grâce d'un arc-en-ciel, mistigris près de mistimiel, chat de soleil et chat de pluie? Les deux poissons. Le directeur est parti de rien. Il a travaillé dur, a fait de grandes études, puis a acheté une usine. Puis deux, puis trois. À force de volonté de travail, il est devenu riche. Il est devenu monsieur le directeur. Tous les jours, il se lève avant le soleil et rentre avec la lune. Un matin, le directeur épuisé se réveille malade. Contraint et forcé, il se rend chez son médecin, pensant au retard accumulé et au travail qu'il faudra rattraper. La prescription de son médecin est sans appel. « Prenez des vacances !» Il vous faut du calme et beaucoup de repos. Vous avez besoin de soleil et d'air pur. Partez au bord de la mer. Monsieur le directeur n'est jamais parti en vacances. Il n'a jamais pris le temps de ne rien faire sur une plage du Mexique, marchant le long des vagues quand le soleil culmine. Il ne sait comment occuper son esprit. Il longe sans but le calme turquoise et remarque un homme qui rentre de la pêche. Le directeur vient à sa rencontre. S'approchant, il découvre au fond du bateau deux beaux poissons bien frais. Impressionné, il félicite le pêcheur. « Belle prise ! Combien de temps vous a-t-il fallu pour les attraper ?» Le directeur soupèse les poissons pour en estimer le poids.
« Une heure, comme chaque matin, je pêche deux poissons en une heure. »
Spontanément, monsieur le directeur s'interroge. « Et que faites-vous le reste de la journée ?»«
Le matin, je cultive mon potager et je pars à la pêche. Le midi, nous mangeons le premier poisson en famille. L'après-midi, je joue avec mes enfants et passe du temps avec ma femme. Et le soir, je vais retrouver mes amis au village. Nous rions, chantons, buvons et mangeons le second poisson. »
Monsieur le directeur s'étonne. « Si vous pêchiez toute la journée, vous attraperiez beaucoup plus de ces magnifiques poissons » s'exclame-t-il.
« Vous avez raison, je pourrais faire ça, mais après ?»«
Après, vous pourriez les vendre. Avec l'argent, vous achèteriez un plus gros bateau. Et puis deux, et puis trois, toute une flotte. »
« Effectivement, ce serait judicieux, mais après ?»
Vous construiriez vos propres usines, auriez votre propre société de vente de poissons.
Intéressant. Mais après ?
Vous posséderiez d'autres sociétés. Et au bout de 20 ou 30 ans, vous seriez devenu un homme très riche.
Et après ?
Après, vous seriez à l'abri du besoin. Et vous pourriez ainsi paisiblement faire tout ce que vous voulez.
Beau programme. Et vous, que feriez-vous à ma place une fois arrivé là ?
Ah, moi, je profiterais d'un repos bien mérité. Je passerais du bon temps avec ma famille. J'irais voir mes amis.
Je crois bien que j'aimerais jardiner.
Peut-être même j'irai pêcher.
Le pêcheur lui adresse un sourire malicieux. Entraînant le directeur avec lui, il lui dit
« Pour vous remercier de tous vos bons conseils, je vous propose de faire ça avec moi dès aujourd'hui. »
Depuis, le directeur vient régulièrement passer quelques jours avec son ami le pêcheur. Il paraît même que ces jours-là, monsieur le pêcheur ramène 3 poissons.
La princesse élastique de Bernard Friot. La princesse élastique était une jeune fille fort sympathique et très dynamique. Elle adorait la gymnastique, la musique, la botanique, les mathématiques, la physique, l'électronique, l'acoustique et l'informatique. Elle s'était fait installer un atelier dans une des tours du château et elle bricolait toutes sortes de machines fantastiques. Elle avait juste un petit défaut. Elle était un peu excentrique, assez colérique et parfois même volcanique. Quand elle eut 16 ans, son père décida qu'il était temps de la marier. Sans lui demander son avis, il envoya des messages électroniques à ses collègues des royaumes voisins. Il invitait les princes, les ducs et les marquis à participer à une épreuve de sélection du futur époux. Au jour fixé, des dizaines de prétendants se pressèrent aux portes du château. Le premier ministre les fit entrer dans la grande salle de bal. On avait dressé une estrade et installé des projecteurs, des caméras et des micros. La cérémonie devait être retransmise en direct sur écran géant dans la cour du château. Les habitants du royaume, qui aimaient beaucoup Élastique, attendaient avec impatience le début des opérations. Quand tout fut prêt, le roi et la reine allèrent chercher leur fille. En entrant dans sa chambre, ils furent accueillis par les lamentations des servantes. « Que se passe-t-il ? » demanda le roi. Une servante lui montra la princesse assise sur son lit. Tout d'abord, le roi crut que ses lunettes lui jouaient un mauvais tour. Il les ôta, les nettoya et les replaça sur son nez. Non, il ne s'était pas trompé. Sa fille avait enfilé ses 2 souliers et pourtant elle avait un pied nu. Le roi compta 1, 2, 3. Pas de doute, sa fille avait 3 pieds. Il balbutia « Mais... » « Effectivement, c'est étrange, dit la reine. Hier, quand nous sommes allés lui acheter des baskets, ma fille n'avait que 2 pieds. » « C'est arrivé brusquement, expliqua Élastique. J'ai découvert ça en me réveillant. Ce n'est pas très esthétique, d'accord, mais c'est rudement pratique. » Et après avoir emprunté une chaussure à la reine, elle improvisa un numéro de claquette absolument étourdissant. « Mais qu'est-ce qu'on va faire ? » se lamenta le roi, « avec tous les prétendants qui nous attendent en bas. Qu'est-ce qu'on va faire ?» « Je vais lui prêter une robe longue, dit la reine, et personne n'y verra rien. » Ainsi fut fait. Les servantes habillèrent Élastique avec une magnifique robe garnie de dentelles. Quelques minutes plus tard, elle fit son entrée dans la grande salle de bal. On appela le premier prétendant, un petit bonhomme aux yeux ronds, vêtu d'un pull trop court, couvert de taches de chocolat. Il s'avança, fit une révérence ridicule et tourna le dos à la princesse, comme l'exigeait la politesse dans le pays d'Élastique. Puis il se présenta. « Je m'appelle Alain, Aurélien, Damien, Félicien, Sébastien, prince de Chambertin. Je suis fabricant de shampoing, je prends un bain chaque matin, je cultive le jasmin et le romarin, je parle latin, alsacien et transsibérien. » Le prince Alain, etc. n'alla pas plus loin. Un formidable coup de pied le souleva et le propulsa jusque dans l'étang du château. Il fallut faire appel aux hommes grenouilles pour le repêcher. La reine fit semblant de se moucher pour cacher son fou rire. Mais le roi était furieux. Rouge de colère, il hurla à sa fille. « J'ai tout vu, c'est toi qui lui as donné un coup de pied. » « Je suis désolée, papounet, » répondit Élastique en baissant les yeux. « C'est mon 3e pied qui est parti tout seul quand ce crétin a débité son baratin. Dès le premier mensonge, j'ai senti mon pied s'agiter. » Et je n'ai pas pu le retenir. Je te pardonne pour cette fois, grommela le roi, mais que cela ne se reproduise plus, tu m'entends ? Élastique haussa les épaules. Le roi reprit sa place et l'on fit avancer le 2e prétendant. Le 2e prétendant était grand, maigre et presque chauve. Il portait une veste en simili-cuir et ses pantalons étaient retenus aux chevilles par des pinces à vélo. Il fit une révérence très réussie, puis tourna poliment le dos à la princesse et se présentant. « Je m'appelle Abélard, Edgar, Gaspard, Léonard, Zigomar, duc de Pomard. Je suis propriétaire d'un grand bazar. Je roule en jaguar, je fume des cigares, je possède plusieurs milliards. Je suis champion olympique de billard. Le duc Abélard, etc. n'alla pas plus loin. Un formidable coup de pied le souleva de terre et le propulsa dans un lustre qui se mit à balancer dangereusement. Il fallut faire appel aux pompiers pour descendre le malheureux et le sortir sur un brancard. Le roi se leva pour flanquer une gifle à sa fille, mais l'astigue détala à toutes jambes, 3 exactement, et le roi ne put la rattraper. Quand il fut calmé, l'astigue expliqua « Je n'y peux rien, papounet, c'est mon pied. Il est parti tout seul dès que ce vantard a commencé ses bobards. » « C'est peut-être un pied magique, intervint la reine, un pied qui détecte les mensonges. » Le roi marmonna « Magique ou pas, arrange-toi pour qu'il reste tranquille. Il faut qu'on te trouve un mari avant ce soir. » Élastique soupira. Le roi se rassit sur son trône. Le premier ministre annonça le troisième prétendant. Le troisième prétendant atterrit sur un tas de fumier. Le quatrième dans un champ d'ortie. Ce fut le 18e qui parcourut la plus grande distance. Il atterrit sur une antenne de télévision à 3 kilomètres du château. C'était lui aussi qui avait débité les plus gros mensonges. En moins de 2 heures, tous les candidats au mariage furent expédiés dans la nature et la princesse se retrouva sans fiancée. Le roi piqua une colère épouvantable. Mais comme c'était malgré tout un bon papa, il se calma et pardonna à sa fille. « Dans 6 mois, grogna-t-il, je fais venir de nouveaux prétendants. Et cette fois-ci, tu n'y échapperas pas. » Pendant ces 6 mois, la vie ne fut pas très agréable au château. Tout le monde se méfiait d'Élastique, car dès qu'un imprudent avait le malheur de dire un mensonge, même un tout petit, paf, un coup de pied l'expédiait sur un poteau électrique ou dans la mare aux canards. Un soir, la reine demanda au roi ce qu'il avait fait dans la journée. Le roi avait passé son temps à jouer aux cartes avec le premier ministre. Il prit un air gêné. « Eh bien, voyons, j'ai rangé mon bureau et puis j'ai rédigé mon courrier. J'ai fait ma déclaration d'impôt. » Paf ! Un formidable coup de pied le souleva de terre et l'expédia au fond d'un puits. C'en était trop. Le roi fit enfermer Élastique dans son atelier d'électronique avec interdiction absolue d'en sortir. À vrai dire, cela ne la dérangeait guère. Elle pouvait à loisir inventer toutes sortes de machines très perfectionnées. Un jour, on frappa à la fenêtre de l'atelier. Un jeune homme aux grands yeux noirs, étonné, lui faisait signe d'ouvrir. Élastique s'approcha et ouvrit la fenêtre. « Salut, dit le jeune homme, je m'appelle Lilo et je suis laveur de carreaux. « Dites donc, c'est rudement sale chez vous ?» Effectivement, l'atelier n'était pas un modèle de propreté. Mais Élastique s'y trouvait bien et elle répondit fort sèchement. « Gardez vos réflexions pour vous et dépêchez-vous de nettoyer mes carreaux, 2 demi-portions de fromage mou. »« Oh oh, mademoiselle mal peignée, répondit Lilo, je fais ce qui me plaît et j'ai horreur d'être bousculée. » Élastique bouillait intérieurement. Ah, si elle avait pu lui décocher un bon coup de pied et l'expédier à 100 km d'ici, cet effronté, ce mal poli. Mais il disait la vérité. Elle était très mal peignée ce matin-là et habillée n'importe comment. Pour l'impressionner, Lilo se mit à se balancer sur sa nacelle de laveur de carreaux. Il s'élançait de plus en plus haut et gardait son équilibre sans se tenir aux cordes. Il avait l'air très fier de lui. Élastique fit la moue et lui tourna le dos en le traitant de petit rat prétentieux. Lilo, vexé, lui versa un plein seau d'eau sur la tête, puis s'empressa de disparaître. Cet après-midi-là, Élastique ne put travailler à ses inventions. Impossible de penser à autre chose qu'à ce maudit laveur de carreaux. Elle tournait en rond dans son atelier en marmonnant des injures épouvantables. Puis, brusquement, elle s'asseyait, se prenait la tête dans les mains et soupirait. Le lendemain, dès l'aube, elle s'habilla avec soin, peigna ses cheveux fous et rangea l'atelier. Elle donnait même un coup de balai quand Lilo apparut à la fenêtre. Il avait son plus beau costume et avait vidé un beau de gel sur ses cheveux. Au début, les 2 jeunes gens ne surent quoi se dire. Enfin, Lilo se lança. balbutia-t-il, vous avez... tu as une chouette robe. C'est vous, c'est toi qui l'as faite ? C'était la dernière chose à dire, car Élastique avait horreur de la couture. « Espèce de vermisseau ridicule !» s'écria-t-elle, tremblante de colère. « Tu t'imagines sans doute que les filles ne sont bonnes qu'à repriser des chaussettes ?» Lilo devint rouge comme une tomate. Pour se venger, il aspergea Élastique de produits pour laver les vitres. Élastique, folle de rage, s'empara d'un fer à souder, et Lilo comprit qu'il avait intérêt à disparaître dans les plus brefs délais. Le lendemain, cependant, il était là dès le petit matin. Élastique l'attendait. Deux minutes plus tard, ils s'insultaient et se bagarraient. Et il en fut ainsi tous les jours. Dès qu'ils se voyaient, une remarque désagréable leur échappait et la dispute commençait. Pourtant, dès qu'ils se quittaient, l'un et l'autre ne pensaient plus qu'à leur retrouvaille. Au bout de 6 mois, le roi fit une nouvelle tentative pour dénicher un mari à sa fille. Afin d'être sûr de trouver des candidats, il envoya des messagers à l'autre bout du monde, dans des royaumes où personne n'avait entendu parler du pied frappeur de la princesse Élastique. Au jour fixé, une dizaine de prétendants se rassemblèrent devant le château. Le premier se présentant en se vantant effrontément et se retrouva catapulté en haut d'une cheminée d'usine. Le deuxième s'inventa 1000 qualités imaginaires et fut expédié sur un tas de charbon, ainsi de suite jusqu'au dernier. Le roi fit une scène épouvantable à sa fille. « Mais qu'est-ce que je vais faire de toi » hurla-t-il. « Faut-il que j'aille sur la lune pour te trouver un mari ?» À cet instant précis, on frappa à l'une des fenêtres de la salle. C'était Lilo. Il descendit de sa nacelle, traversa la salle d'un air résolu et s'inclina devant le roi. « Majesté, dit-il, je ne suis ni prince ni marquis, mais je désire épouser votre fille. » Le roi se gratta le menton, soupira et dit « Tu sais ce qui t'attend si tu ne dis pas la vérité ?»« Ce qui doit arriver arrivera, » répondit Lilo. Il fit une révérence, tourna le dos à la princesse et déclara « Je suis une demi-portion de fromage mou, un petit rat prétentieux, une espèce de vermisseau ridicule. « Lilo, arrête !» s'écria Élastique. « Je t'en supplie, ce n'est pas vrai, Lilo, je le jure, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Trop tard. Un formidable coup de pied catapulta Lilo à travers la salle de bal et l'expédia loin, très loin dans la campagne. Lilo n'était plus qu'un petit point à l'horizon quand Élastique démarra comme une fusée. Elle dévala les escaliers, franchit d'un bond les fossés emplis d'eau, sauta par-dessus les haies et les barrières, galopa par monts et par veaux en agitant les bras et en criant « Lilo, Lilo, fais attention en retombant !» Enfin, au beau milieu d'un champ, elle aperçut Lilo. Il était étendu sur une meule de foin et n'avait l'air ni mort ni blessé. Élastique se précipita dans ses bras, se mit à rire et à pleurer tout à la fois. Lilo, la gorge nouée par l'émotion, était incapable d'articuler un mot. Il la regardait, lui serrait les mains, l'embrassait, puis la regardait encore. Une heure plus tard, le roi, la reine et leur suite arrivèrent tout essoufflés. « Jeune homme, dit le roi à Lilo, vous avez battu tous les records. Vous avez parcouru exactement 18 kilomètres et 132 mètres. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi ma fille vous court après. » « Regarde-les, dit la reine, il n'y a pas besoin d'explication. Tu n'auras plus de problème pour trouver un mari à ta fille. » Le roi regarda les deux jeunes gens et un grand sourire éclaira son visage. Mais soudain, il fronça les sourcils, se pencha vers la reine et lui chuchota à l'oreille. « Mais est-ce qu'il est au courant pour les trois pieds d'Élastique ?» Élastique, qui avait l'oreille très fine, l'interrompit. « Il faut que je vous avoue quelque chose. Seulement... « Promettez-moi d'abord de ne pas vous fâcher. » Le roi et la reine promirent. Alors Élastique sortit un tournevis de sa poche, souleva sa robe et démonta son troisième pied. « C'est moi qui l'ai fabriqué, dit-elle, quand papa a voulu me marier de force. C'est un pied électronique avec détecteur de mensonges incorporé. » La reine éclata de rire. Le roi devint tout rouge, prêt à exploser, mais sa femme lui rappela sa promesse. Et il se calma. « Tu es vraiment un drôle de phénomène, dit-il à sa fille. Je plains ton mari. » Mais le roi se trompait. Lilo n'eut jamais à se plaindre de son épouse. Élastique continua de se passionner pour l'électronique et inventa toutes sortes de machines très utiles, bras démontables pour se gratter le dos, pieds spéciaux pour danseuse, pouces pour se tourner les pouces, et plein d'autres choses encore. Quant à Lilo, il devient champion olympique de saut en longueur. Entre deux entraînements, il s'occupait de leur petite famille, 6 filles et 5 garçons. Autrement dit, ils eurent beaucoup d'enfants et furent heureux très longtemps. C'est bien ainsi, n'est-ce pas, que se terminent les contes de fées.
Chère mamie d'Émilie Chazeran et Charles Dutertre. Chère mamie, je t'écris pour te souhaiter une bonne fête des grands-mères, car si je ne le fais pas, maman me prive de télé pendant un mois. Bisous, Jonathan. Cher Jonathan, je te réponds pour te remercier de ta gentille carte, car si je ne le fais pas, ma fille, ta mère, me téléphonera et m'empêchera de suivre mon feuilleton préféré, Amours et Riviera. Baiser, grand-mère Micheline. Chère mamie Molette, ta lettre m'a bien fait rigoler. Je croyais que les mémés s'ennuyaient toute la journée en se plaignant d'être vieilles et abandonnées. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait les déranger. Bisous, Jonathan. Cher Jonathan, nous les mémés, on se plaint effectivement toute la journée. Mais seulement parce qu'on est vieille, pas abandonnée. C'est d'ailleurs notre activité principale. On pleurniche, on râle, on dit qu'on s'ennuie ou qu'on a mal. Ah non, ça c'est les enfants, je confonds tout le temps. Baiser, ta grand-mère de terre. Chère mamie Mosa, oui, nous les enfants, on a un seul but dans la vie, empoisonner celle de toute notre famille et surtout celle de nos grand-mères un peu bougonnes mais très chippies. Peut-être que tu t'en souviens, ou est-ce que ton enfance est trop loin ? Bisous, Jonathan. Cher Chonapan, je me souviens parfaitement de quand j'étais enfant grâce à ma mémoire d'éléphant, ou de mammouth plus exactement. J'en avais d'ailleurs apprivoisé un sur lequel je grimpais pour aller acheter du jambon de stégosaure chez le boucher. C'était moins fatigant que le vélo, mais plus difficile à garer. Baiser, ta grand-mère Line Miche. Chère mamie Trayette, un stégosaure, carrément? Ce genre de grosse bestiole, ça me fait rêver. Tu as bien de la chance d'en avoir vu pour de vrai. Et je ne parle pas seulement de ton cousin André. Dis, est-ce que comme lui, tu peux enlever tes dents quand tu en as envie? Bisous, Jonathan. Cher Chenapan, bien sûr, je peux enlever mes dents très facilement, les unes après les autres ou toutes d'un coup, ça dépend, si j'ai du temps ou pas du tout. Je peux aussi dévisser mes bras et décapsuler mes yeux. Ça fait un joli petit son, comme quand tu ouvres un pot de cornichons. Tu t'y connais en cornichons, non? Baiser, ton robot mémé. Chère ma Mirabelle, je m'y connais autant en cornichon que toi en banane, je parie. Mais dis-moi, quand t'as fabriqué ma mère, qu'est-ce qu'il t'a pris? Elle n'arrête pas de masticoter. Elle veut que je me lave, que je range mes jouets. Elle crie pour un rien et elle m'embête pour tout. Elle n'arrête pas de dire que elle, quand elle était petite, elle filait doux. Est-ce que c'est du pipeau ou est-ce que c'est vrai? Bisous, Jonathan. Cher Jojo l'embrouille, ta mère était un ange tombé sur terre. Pas un gros mot, jamais une colère. Elle était propre et sage et douce et polie. Il faut dire que j'étais une maman parfaite aussi. J'avais beaucoup de patience, de douceur, mais j'inspirais le respect et la terreur. Je gardais dans la cave une meute de chacals qui l'aurait croquée si elle s'était tenue mal. Peut-être que je devrais lui en offrir une à Noël. Ce sera plus utile qu'une veste en flanelle. Baiser, mémé la Saumure. Chère mamie Smonde, tu es bien plus rigolote que maman. J'aimerais mieux vivre avec toi finalement. On regarderait la télé tous les deux et on serait heureux comme deux petits vieux. J'irai lui rendre visite pour son anniversaire et je lui écrirai à la fête des mères. Elle s'en mordra les doigts de m'avoir embêtée comme ça. Bisous, Jonathan. Cher Jonathan, le métier de maman, c'est embêteuse professionnelle. Je le sais car je l'étais bien avant elle. Quand tu es né, je me suis mise à la retraite. Le boulot de mamie est beaucoup plus chouette. Et dès que tu seras papa, elle deviendra rigolote comme moi. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle aura un petit enfant très amusant qui lui écrira de temps en temps. Elle comprendra d'un coup qu'elle a bien travaillé malgré tout. Et que ses années d'embêtement auront fait de toi un adulte épatant. Baiser, l'enquiquineuse en congé.
Vous venez d'écouter « C'est en lisant qu'on devient liseron ». Une émission de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche en partenariat avec les radios du département, Radio des Moutières, Déclic Radio, Radio d'ici et Fréquence 7.